France Culture, il est midi et demi. Le journal Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Elle tire la leçon de la crise politique ouverte en Thuringe, en Allemagne, la semaine dernière. La dauphine désignée des conservateurs à la chancellerie jette l'éponge. Annegret Kramp-Karrenbauer estime que la CDU qu'elle préside depuis un an n'a pas clarifié sa relation avec l'extrême droite. Les précisions de Ludovic Piétenu au début de ce journal.
Et dans votre journal également, le coronavirus en Chine. Pour la première fois, le président Xi Jinping est apparu avec le visage recouvert d'un masque de protection. Journée la plus meurtrière hier, 97. 7 décès supplémentaires, ce qui porte à 908 le nombre de morts. Les autorités doivent gérer le retour des habitants dans les grandes villes après la fin des vacances du Nouvel An.
Nous irons également en Irlande où les tractations ne font que commencer après les législatives de ce week-end et la percée historique du Sinn Féin. Résultat toujours provisoire, mais le parti nationaliste veut se faire une place dans le prochain gouvernement.
En Russie, l'homme d'affaires français Philippe Delpal fait appel devant un tribunal moscovite ce lundi, emprisonné depuis 6 mois et assigné à résidence. Il ne parvient pas à se défendre contre des soupçons d'escroquerie.
En France, nous reviendrons aussi sur cette recommandation de la Haute Autorité de Santé pour une meilleure prise en charge de la fin de vie à domicile. Elle demande au pouvoir public de faciliter l'accès à un sédatif puissant, le midazolam, pour les généralistes. Précision à suivre d'Antoine Marette. L'invitée de ce journal, Gisèle Sapiro, sociologue, directrice de recherche au CNRS. Elle signe une pétition sur le site de l'humanité.fr avec 140 personnalités politiques et intellectuelles. Tous demandent un référendum à Emmanuel Macron sur le projet de loi retraite. Et puis, à 12h55, au sommaire de la grande table des idées, Olivia.
Elle est notre prix du roman des étudiants, France Culture, Télérama. L'écrivaine Emma Pecker sera avec nous dans la seconde partie de la grande table pour évoquer son livre La Maison, paru à la rentrée dernière chez Flammarion, en discussion avec l'historienne Laure Murat. Ensemble, il sera question de littérature, de sexe tarifé ou pas, et de mécanique du désir, des relations hommes-femmes, tout ça au menu de la deuxième partie de la grande table.
Merci Olivia et à tout à l'heure. En Allemagne, le séisme politique de la semaine dernière en Thuringe, cette alliance surprise entre dirigeants locaux issus de la CDU avec l'extrême droite n'a pas fini de laisser des traces. Ce matin, on apprend que la présidente du parti chrétien-démocrate, Annegret Kramp-Karrenbauer, ne sera pas candidate à la chancellerie. Elle était considérée comme la dauphine d'Angela Merkel. Angela Merkel qui souhaiterait toutefois qu'elle reste au sein du gouvernement en tant que ministre de la Défense. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis Berlin et vous avez obtenu des détails sur ce revirement.
Oui, son destin semblait pourtant tout tracé, devenir la prochaine chancelière d'Allemagne. Pour cela, Annegret Kramp-Karrenbauer n'avait plus qu'à gravir les marches une à une, en prenant d'abord la tête du parti conservateur. Elle succède à Angela Merkel il y a un peu plus d'un an, en décembre 2018, bien qu'élue de justesse par les délégués de la CDU. 6 mois plus tard, elle signe son entrée au gouvernement. Elle est nommée ministre de la Défense. Il ne lui restait plus qu'à tenir ses troupes en rang serré. C'est cela qu'elle n'a pas su faire, et à plusieurs reprises depuis un an, l'épisode politique de la semaine dernière en Thuringe a été l'épisode de trop, incapable d'asseoir son autorité face à des élus locaux qui ont pourtant enfreint les règles du parti en ajoutant leur voix à celle de l'extrême droite, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, celle qui est surnommée AKK car son nom est jugé trop long ou trop compliqué. Annegret Kramp-Karrenbauer met donc d'elle-même un terme à ses ambitions. Elle souhaite aussi quitter la présidence de la CDU, une décision surprise qui fait voler en éclats l'idée que la politique allemande est souvent un long fleuve tranquille. Une nouvelle bataille de succession va s'engager avec le retour probable des deux prétendants de l'hiver dernier, Friedrich Merz et Jens Spahn. Depuis quelques semaines, un autre nom a commencé à circuler, celui d'Armin Laschet, qui dirige aujourd'hui le grand land de l'Ouest, très peuplé, très riche, de la Rhénanie du Nord-Westphalie. AKK qui jette l'éponge, cela pose la question de la future orientation programmatique de la CDU et d'une éventuelle alliance avec l'extrême droite. Deuxièmement, cela relance une nouvelle fois le débat sur l'avenir de la grande coalition à Berlin entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. Et enfin, cela repose à 19 mois de l'échéance, la question d'élections anticipées pour ouvrir peut-être plus précocement le chapitre de l'après-Merkel.
Merci Ludovic Piétenu pour votre compte-rendu. Vous étiez en direct de Berlin. En Irlande, le décompte des voix après les élections législatives reprend ce lundi, mais sans attendre le résultat final, le parti nationaliste du Sinn Féin cherche à nouer des alliances et à se faire une place dans le futur gouvernement. Les premiers résultats ont en effet replacé la formation au centre du jeu, formation ces dernières années marginalisée pour ses liens avec l'IRA, l'Irish Republican Army, et qui est arrivée en tête devant les deux grands partis de centre-droit, le Fianna Fáil et surtout le Fine Gael du Premier ministre Leo Varadkar. Emeline Vin, vous suivez depuis Dublin les tractations et les déclarations des uns et des autres.
Dès son élection dimanche après-midi, Marie-Lou MacDonald a lancé des invitations.
Nous discutons avec les Verts, les sociodémocrates, Solidarité, le peuple avant les profits. C'est la première hypothèse que je veux tester et voir si c'est possible. Dans l'idéal, je voudrais un gouvernement sans Fianna Fáil et sans Fine Gael, mais j'ai toujours dit que je discuterai avec tout le monde.
Une large coalition à gauche, telle que voulue par le Sinn Féin, serait inédite, mais sa faisabilité mathématique va dépendre des derniers résultats. Subtilité du système électoral, c'est le Fianna Fáil qui devrait décrocher la majorité des sièges. Une coalition avec les nationalistes n'est plus exclue pour son chef, Micheál Martin.
Nos positions n'ont pas changé en 24 heures, mais ce qui est important, c'est que le pays passe en premier. Et les résultats en parlaient, nous allons écouter les électeurs qui ont voté pour trois partis principaux.
C'est hors de question pour le Premier ministre sortant, Leo Varadkar.
Nos trois partis ont globalement reçu le même nombre de voix. Nous sommes tous légitimes. Mais pour former un gouvernement, il faut avoir à peu près les mêmes opinions. Et c'est pour ça que mon parti, le Fine Gael, n'est pas compatible avec le Sinn Féin. Mais nous discuterons avec les autres partis pour former un gouvernement.
Il n'exclut plus désormais de diriger l'opposition.
Le reportage d'Emeline Vin à Dublin. 908 morts, plus de 40 000 cas de contamination en Chine depuis hier. Le bilan du coronavirus a dépassé celui de l'épidémie de SRAS qui était apparue dans le pays et qui s'était propagée dans le monde en 2002 et 2003, entraînant la mort de 774 personnes. Après 15 jours de tractations avec les autorités chinoises, des experts internationaux placés sous l'égide de l'OMS ont pu s'envoler pour Pékin. Aujourd'hui, ils veulent enquêter sur cette épidémie de pneumonie virale. Alors que dans le pays, les vacances du Nouvel An sont désormais officiellement terminées, le gouvernement doit donc gérer le retour des dizaines de millions de ruraux dans les villes. Dominique André, les autorités sont prudentes, elles organisent un plan de retour progressif.
Masque sur le visage et blouse blanche, Xi Jinping inspecte pour la première fois un hôpital du nord de Pékin où sont soignées des victimes du coronavirus. Beaucoup de Chinois lui reprochaient de ne pas être visible sur le terrain. Hier, les autorités ont enregistré le pire des bilans depuis le début de l'épidémie, avec 97 morts en 24 heures, alors que le pic n'est pas encore atteint. Les vacances sont finies officiellement depuis ce matin. Les premiers retours de ruraux ont commencé. Le pneumologue chinois Zhang Wenhong a lancé un appel à la responsabilité de chacun.
Si le personnel médical combat tout seul le virus sur le front, nous ne pourrons pas vaincre cette épidémie. Ce serait foutu. Actuellement, chaque citoyen est un soldat. Même si vous êtes en quarantaine à la maison, vous êtes aussi des soldats. C'est une stratégie destinée à éviter la transmission. Vous combattez à la maison. Et dans deux semaines, on va régler ce problème.
8 millions de ruraux doivent revenir à Pékin. 1 million est déjà arrivé hier. L'inquiétude a gagné la capitale.
La correspondance à Pékin de Dominique André. Au Japon, 66 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés sur un navire de croisière bloqué depuis une semaine dans le port de Yokohama. Des cas qui portent à 130 le nombre de personnes contaminées sur un total de 3700 personnes à bord. Parmi eux, une cinquantaine de Japonais, mais aussi des ressortissants australiens, ukrainiens, britanniques, philippins et canadiens. Le bateau est placé en quarantaine. En Russie, le calvaire n'en finit plus pour l'homme d'affaires français Philippe Delpal. En dépit des discussions entre les chefs d'État Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Depuis un an maintenant, ce financier respecté, installé à Moscou depuis 2005, ne parvient pas à se défendre contre des soupçons d'escroquerie. Ce salarié du fonds d'investissement occidental Baring Vostok est emprisonné depuis 6 mois. Assigné à résidence, il s'est vu refuser en janvier dernier une libération sous caution. Il fait appel aujourd'hui devant un tribunal moscovite. Claude Bruyot, vous avez rencontré sa femme Cécile qui dénonce des risques pour les investisseurs étrangers en Russie.
Enfermé dans un appartement depuis 6 mois, interdit de toute communication extérieure, Philippe Delpal s'est vu refuser en janvier dernier le droit de sortir ne serait-ce qu'une heure par jour. Au-delà du cas de son mari, Cécile Delpal veut alerter sur le fait que les risques encourus aujourd'hui par les hommes d'affaires étrangers en Russie sont bien réels et que les litiges commerciaux, avant d'être abordés au fond, peuvent faire l'objet d'un règlement de compte en justice.
Dans le fond, Philippe n'a signé aucun document, jamais aucune transaction mise en cause. Il était simplement conseiller à ce moment-là des entreprises qui sont concernées dans ce litige commercial. Tout le monde sait qu'il n'a rien signé, mais on ne veut pas l'entendre. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est quand même lorsqu'une entreprise française ou même européenne ou étrangère va venir s'installer en Russie, il y a des risques. Et Philippe en est la première victime étrangère. Avant, ça ne s'était jamais produit. Ce n'est pas le cas de Philippe Delpal, mais ça peut être d'autres cas qui peuvent désormais se produire.
À l'heure du rapprochement diplomatique franco-russe, l'affaire Delpal a fait tâche jusqu'ici, à moins que les récentes évolutions politiques qui ont concerné la justice russe, avec un spectaculaire changement de procureur général, ne viennent éclairer ce dossier d'un jour nouveau.
Les précisions à Moscou de Claude Bruyot. Et puis toujours en Russie, l'opposition et des ONG dénoncent une nouvelle illustration de l'arbitraire du pouvoir. De très lourdes peines de prison entre 6 et 18 ans ont été prononcées ce matin à l'encontre de 7 jeunes hommes. Ils ont été présentés par l'accusation comme des terroristes antifascistes et anarchistes. Arrêtés en 2017, les services secrets du FSB ont estimé qu'ils appartenaient à un réseau terroriste d'extrême gauche. En Azerbaïdjan, il y avait aussi des législatives ce week-end. Législative anticipée décidée par le président Aliyev pour répondre au mécontentement lié au ralentissement économique. Près de 90% des bulletins dépouillés. Le parti du président remporte la majorité absolue, 65 sièges sur les 125 du Parlement. Les formations d'opposition ont boycotté le vote. Elles accusent le gouvernement d'avoir entravé leur campagne. Et puis l'OSCE, qui avait des observateurs, dit aussi douter de l'honnêteté des résultats. En France, il reste plus de 15 300 amendements à examiner en commission spéciale retraite. C'est mission impossible pour les députés qui doivent finir l'étude du projet de loi du gouvernement d'ici à mardi soir. Conséquence, le texte devrait arriver en séance publique le 17 février dans sa version initiale. Le gouvernement n'envisage pas le recours au 49-3. Le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, l'a affirmé ce matin sur France Inter. Tandis que le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, interrogé lui sur BFM, a dit espérer que l'Assemblée nationale prendra le temps d'examiner tous les amendements en séance publique. Bonjour Pierre Neveu.
Bonjour.
La majorité est empêtrée dans ce projet de loi et ce matin, dans le journal L'Humanité, 140 personnalités enfoncent le clou. Des politiques comme Julien Bayou chez Europe Écologie Les Verts ou encore Jean-Luc Mélenchon pour Les Insoumis, des intellectuels également, le cinéaste Bertrand Tavernier, l'historien Emmanuel Todd ou encore la sociologue Gisèle Sapiro qui sera avec nous dans un instant. Tous demandent un référendum sur le retrait de la réforme.
Le bras de fer parlementaire engagé depuis une semaine maintenant par les députés de la France Insoumise et relayé par leurs collègues communistes a trouvé un nouvel écho ce matin avec la publication de cette pétition et cela a animé les débats. Vous ne pouvez pas décider par ordonnance, il faut soumettre cette réforme aux citoyens, explique Éric Coquerel, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
L'issue des urnes est toujours une issue pacifique quand il y a un blocage. Or, vous avez un blocage, vous êtes en train d'essayer de passer par la force une loi qui ne passe pas dans l'opinion. Cette loi n'est pas bonne. Donc à partir de là, les urnes sont toujours la meilleure solution, le de vouloir passer en force.
Une tribune, une pétition présentée en commission spéciale, ainsi que le nombre d'amendements qui ont le don d'irriter le co-rapporteur de la commission, le député MoDem de la Vienne, Nicolas Turquois.
Je constate que nous avons ce matin, avant notre début des travaux, examiné 4221 amendements. Donc, nous aurions eu largement le temps d'examiner l'intégralité du texte s'il n'y avait pas eu les 19 000 amendements de la France Insoumise, qui sont là pour faire de l'enlisement parlementaire et qui, s'il devait y avoir référendum, empêcherait absolument d'éclairer nos concitoyens sur les enjeux de cette réforme.
Et c'est donc cette stratégie d'obstruction qui est clairement mise en lumière et dénoncée depuis le début des travaux de la commission. Le travail parlementaire de cette commission spéciale va donc s'achever demain soir, alors que la totalité des amendements n'aura pas été examinée dans le temps imparti. Le projet de loi arrivera donc en séance publique le 17 février dans sa version initiale. Texte que les oppositions se chargeront alors d'amender. Voilà qui risque à nouveau d'opposer deux blocs, celui d'un gouvernement et d'une majorité déterminée à réformer le système des retraites coûte que coûte, et celui d'une opposition de gauche prête à tout pour obliger le gouvernement à recourir à l'article 49.3 de la Constitution qui permet la l'adoption d'un projet de loi sans vote.
Merci Pierre Neveu pour vos précisions. Et l'invité du journal de 12h30, c'est donc Gisèle Sapiro, sociologue, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS. Bonjour.
Bonjour.
Et avec moi pour vous interviewer, Stéphane Robert du service politique de France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Une première question, Gisèle Sapiro. Vous faites donc partie des 140 personnalités qui ont signé une pétition lancée sur le site de l'humanité.fr. Vous demandez un référendum à Emmanuel Macron sur ce projet de loi retraite. Première question donc très simple. Qu'est-ce que vous reprochez à ce texte?
Oui, ce projet de réforme des retraites remet en cause les acquis sociaux qui ont été adoptés par le Conseil national de la Résistance et en fait il accroît les inégalités en ne tenant pas compte des espérances de vie qui sont très variables selon les métiers. Par exemple, les éboueurs ont une espérance très inférieure à la moyenne. Le calcul de la retraite se faisait sur les 25 meilleures années, or ce ne sera plus le cas, au détriment de ceux qui, par exemple, ont commencé comme ouvriers et ont fini comme cadres. Et puis plus largement, il y a une opposition au projet de réforme néolibérale qui introduit des méthodes managériales dans le secteur public, l'hôpital, l'université, au détriment de la mission de service public. Et il y a aussi une opposition aux violences policières qui ont atteint un niveau inouï. Et dans beaucoup de pays, le néolibéralisme va de plus en plus de pair avec l'autoritarisme.
Autre question, Madame Sapiro. Pourquoi un référendum, étant donné que ce projet de réforme faisait partie du programme du candidat Macron ?
Oui, alors on oublie qu'Emmanuel Macron n'a été élu qu'à 24% des votes exprimés et 18% des inscrits au premier tour, et que beaucoup de ceux dont je suis qui n'ont pas voté pour lui au premier tour s'opposaient précisément à son programme de réforme néolibérale, et le vote au deuxième tour était un vote contre Marine Le Pen. Et le référendum, c'est un moyen démocratique, hein, tout comme la grève, la manifestation, et étant donné le mouvement social qui dure depuis 2 mois et l'opposition croissante à ses politiques néolibérales, étant donné aussi le soutien majoritaire de la population à ce mouvement, malgré les inconvénients qu'a pu créer la grève, il serait bienvenu de soumettre ce projet à une consultation citoyenne plutôt que de le passer en force. Et les partis de l'opposition ont déposé 22 000 amendements, hein, on l'a entendu. Ils prévoient aussi une motion de censure.
Est-ce que vous ne craignez pas, en publiant ce texte dans le journal de l'Humanité, d'être identifié politiquement, puisque ce journal est identifié politiquement, et quelles conséquences pour vous en tant qu'intellectuel ?
Bon, d'abord, il s'agit d'un appel large qui n'a pas une couleur politique particulière. La pétition demande un référendum sur le projet de réforme des retraites. Ce n'est pas un programme politique. Par ailleurs, même s'il a une couleur politique, l'Humanité est un journal de qualité, tout à fait respectable, qui fait du bon travail, notamment sur les questions socio-économiques et sur la culture. Alors, la pétition, c'est un mode d'action traditionnel des intellectuels depuis l'affaire Dreyfus. Les intellectuels mettent leur capital symbolique collectif au service d'une cause ou d'un principe. Je rappelle qu'au moment du projet de loi travail, il y avait 3 pétitions d'économistes qui exprimaient des positions divergentes pour ou contre. Mais évidemment, la pétition n'est pas le seul moyen aujourd'hui. Il y a beaucoup d'interventions sur le mode de l'intellectuel spécifique tel que défini par Foucault. Les chercheurs produisent une contre-expertise au service des dominés sur la base de leurs compétences spécifiques. Michel Foucault l'avait fait avec le groupe d'information sur les prisons. Aujourd'hui, Thomas Piketty incarne cette figure. Il y a aussi la notion d'intellectuel collectif qui avait été forgée par Bourdieu au moment du mouvement de 95, lorsqu'il avait fondé l'association Raison d'agir et qu'incarne des organisations comme ATTAC, Copernic qui ont lancé la pétition Carton Rouge et aussi elles ont lancé une réflexion sur comment partager les savoirs critiques. Ça a eu lieu à la Bourse du Travail le 1er février. Aujourd'hui, on observe aussi de nouveaux modes d'engagement. Les avocats jettent leurs robes, les médecins leurs blouses, les professeurs leurs livres, les cartographes leurs cartes pour signaler qu'ils ne peuvent plus remplir leur mission dans ces conditions. Et en fait, je suis engagée dans ce mouvement en tant que citoyenne, mais aussi en tant qu'enseignante-chercheur soucieuse de l'avenir de nos étudiants et aussi en tant que sociologue. Parce que il y a aussi un projet de loi sur l'enseignement et la recherche qui suscite une très vaste mobilisation dans le monde universitaire parce qu'il va précariser encore plus les conditions de travail et les carrière. Par ailleurs, le budget voté est très insuffisant et nombre d'entre nous, il faut dire, ont été très choqués par l'augmentation des frais d'inscription à l'université pour les étudiants hors Union européenne, alors que la France est une destination d'études très importante pour les étudiants latino-américains et africains, entre autres. En tant que sociologue, je voudrais rappeler que Durkheim a écrit « La sociologie ne vaut pas une heure de peine si elle ne devait avoir qu'un intérêt spéculatif ». si la science ne doit pas être idéologique, hein, ça je suis absolument d'accord, les savoirs ont toujours été utilisés à des fins politiques, qu'on le veuille ou non. Or, le néolibéralisme se nourrit d'arguments soi-disant économiques pour présenter les réformes comme une fatalité, et du coup, les savoirs critiques servent à contrecarrer ces discours fatalistes et à réfléchir à des alternatives.
Il y a un débat sur cette question entre vous, entre intellectuels. Hein. Je cite par exemple Frédéric Worms qui disait en 2015, l'intellectuel doit aider à comprendre et non accentuer le sentiment de déclin ou susciter la nostalgie. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ?
Bah non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai toujours pratiqué la sociologie critique. Je pense que il y a des moments où il faut s'engager. Ça n'empêche pas qu'il faille adopter un recul et une distance dans les analyses que nous pouvons faire. De même, je considère que dans la classe, on n'est pas là pour faire de la politique. On peut discuter de la politique, on peut discuter des enjeux, mais il n'y a pas à orienter les étudiants. Cela dit, et là, je ne veux pas engager mes institutions de rattachement, mais c'est à titre personnel, individuel, que je m'engage sur ces questions et en mettant au service de cette cause les savoirs critiques dont je peux disposer.
Merci.
Et je pense que voilà.
Allez-y, je vous laisse terminer votre phrase en deux mots.
C'est bon.
C'est bon. Merci Gisèle Sapiro pour votre intervention et merci à vous Stéphane Robert. 13 départements restent en vigilance orange pour vent violent, vagues, submersion et inondations selon Météo France. On y reviendra dans le détail dans la météo. 3 personnes ont été légèrement blessées dans le Haut-Rhin en raison de la tempête Ciara. Près de 130 000 foyers privés d'électricité selon Enedis ce midi, dont 34 000 en Lorraine. Des annulations, des retards de train ainsi que des perturbations du trafic aérien sur les aéroports de Balmulhouse et Strasbourg, toujours en cours. Le trafic a repris normalement à Orly et sur les lignes de ferry entre Calais et Douvres. La Haute Autorité de Santé recommande ce lundi d'autoriser les médecins de ville à pratiquer la sédation profonde et continue pour leurs patients en fin de vie. Jusqu'à présent, ces médicaments étaient réservés, sauf exception, aux hôpitaux. La Haute Autorité recommande donc d'autoriser aussi les généralistes à utiliser le midazolam, un sédatif puissant. L'institution qui publie même un guide pratique avec les doses à administrer, par exemple. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour Anne.
Fin novembre, le cas d'un médecin normand avait mis en lumière les obstacles existant à l'accompagnement d'un patient en fin de vie à domicile.
Oui, alors la loi Claeys-Leonetti promulguée en 2016 offre aux malades en phase terminale notamment la possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. On peut parler d'euthanasie passive, le but n'est pas de donner la mort mais de soulager, même si cela peut accélérer la mort. Alors pour le moment, en théorie, pour bénéficier de cette sédation profonde, il faut passer par l'hôpital. Un simple médecin de ville ne peut pas prescrire les médicaments utilisés pour cette sédation profonde. Il s'agit d'un produit anesthésique, le midazolam, ainsi que des neuroleptiques utilisés habituellement en psychiatrie. Il y a un peu plus d'un mois, vous le disiez, un médecin normand a ainsi été mis en examen et interdit d'exercer pour avoir administré à 5 de ses patients l'un de ces médicaments pour les soulager. Pour que cela change, il faudrait une évolution de la réglementation de ces médicaments. C'est ce que souhaite la Haute Autorité de Santé. En anticipant une future décision des pouvoirs publics en ce sens, elle vient de publier un mode d'emploi aux médecins pour les utiliser, avec notamment les doses à respecter. Reste une difficulté de taille. La loi impose que la décision de mettre en œuvre cette décision soit prise de façon collégiale, une condition facile à remplir dans un cadre hospitalier, beaucoup plus complexe pour un médecin de ville. Alors comment faire ? La Haute Autorité de Santé prévoit d'organiser une réunion avec une équipe de soins palliatifs pluriprofessionnels, éventuellement par téléphone, et en faisant intervenir l'avis d'au moins un médecin extérieur.
Merci Antoine Marette pour vos précisions.
Et l'Oscar est décerné à
Parasite.
C'est le premier long métrage en langue étrangère à remporter l'Oscar du meilleur film. Le film sud-coréen Parasite a été plusieurs fois récompensé hier soir à la 92e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Ce drame familial qui met en scène la violence des rapports sociaux a été sacré meilleur film, donc meilleur scénario original, meilleur film étranger. Et Bong Joon-ho est sacré meilleur réalisateur parmi les autres sacres de la soirée. Joaquin Phoenix, meilleur acteur pour son rôle de clown criminel dans le film Joker. Et puis Renée Zellweger a été désignée meilleure actrice actrice pour son incarnation de la légende d'Hollywood, Judy Garland, dans le film Judy. Plus que 13 départements, donc on le disait tout à l'heure, en vigilance orange pour vent violent, vague submersion et inondation, selon le dernier bulletin de Météo France. Le ciel restera chargé partout en France cet après-midi avec de la pluie et les températures 8 à Lille, 10 à Strasbourg, 11 à Brest, 12 à Paris, 16 à Lyon et Bordeaux et puis jusqu'à 20 à Menton. Ce journal a été préparé avec Nicolas Paumet.